Arthur Cohen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur et vous allez remettre donc dans quelques semaines maintenant un rapport important sur l'éthique et la finance. C'est vrai qu'avec la crise financière, on s'est beaucoup posé de questions. Il y a eu un certain nombre d'affaires très célèbres dans le domaine de la finance, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser justement à essayer de relier ces deux mots, puisque certains diront finalement finance et éthique, c'est incompatible. Qu'est-ce qui vous a amené à y travailler ?
Alors oui, la crise a joué beaucoup sur la nécessité de s'interroger à nouveau sur la compatibilité, ou en tout cas sur l'hétérogénéité, la légitimité de cette hétérogénéité entre éthique et finance. Au départ, ce rapport est né d'une occasion. On s'est aperçu que la crise a incité beaucoup d'institutions bancaires à récupérer les vocabulaires de l'éthique, de la morale, pour en faire usage. Et nous nous sommes donc interrogés sur la pertinence et la légitimité de l'usage de ce vocabulaire éthique en finance, entre guillemets, se revendiquer finance éthique ou finance socialement responsable, etc. Ça a des implications. Est-ce que ça n'est qu'un discours, j'allais dire, de propagande ou de communication, ou est-ce que ça cache une réalité concrète derrière ?
C'est vrai que d'ailleurs, on pourrait dire que tous les pays n'utilisent pas le même vocable. Et non, derrière, enfin, l'éthique, il n'y a pas la même signification.
C'était toute la difficulté du rapport. Le rapport est un rapport qui a mobilisé presque 750 000 personnes dans le monde, puisque par le biais de la CIFA, nous avons pu envoyer à peu près 750 000 professionnels de la finance un questionnaire. Nous avons interrogé plus d'une centaine de notoriétés à travers le monde. Certains sont importants, Jean-Claude Trichet, Jacques Delarosière, ancien directeur général du FMI, ou Jean Perlevat, enfin, pour ne citer que les Français. On a comme ça essayé de récupérer ce qui faisait sens et ce qui faisait sens communément. Et on a parallèlement essayé de définir ce que pouvait être une éthique financière, en distinction des différents usages qu'on peut faire, souvent en morale, puisque lorsqu'on parle de finance éthique, on parle souvent, j'allais dire, de finance répondant à une idéologie ou religieuse parfois, etc. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment expliquer dans le cadre des Nations Unies, donc dans le cadre d'une morale universelle, ce qui est spécifiquement éthique et ce qui ne l'est pas.
Quelque part, alors il y a de nombreux passages dans ce rapport, mais par exemple, à un moment d'entre eux, vous dites que la finance peut-être s'est écartée il y a eu des défaillances théoriques quelque part de la finance qui l'ont fait peut-être devenir trop indépendante.
Alors, originairement, finance et éthique ont été liés depuis la création de la réflexion économique, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec Aristote et Cotillia en Inde. Pour ma part, jusqu'au XVIIIe siècle, la finance était subordonnée souvent à l'éthique. Un grand retournement s'est fait à la fin du XVIIIe, tout au long du XIXe, et le grand renversement a été, j'allais dire, officialisé par Marx et Nietzsche, qui sont les deux à avoir véritablement inversé le rapport, et la finance s'est trouvée complètement indépendante de l'éthique. En soi, ça n'est pas nécessairement choquant. Ce qui nous importe à nous, c'est de dire, lorsqu'on est indépendant, il n'y a pas de problème, mais dès lors qu'on utilise une communication qu'on promeut un code de valeur éthique, alors il y a des exigences à avoir pour ne pas tromper le consommateur de produits et de services financiers.
Alors il y a différents sujets sur différentes activités, bien entendu. On pense aux activités de trading, les activités de dépôt, c'est autre chose. Là, il y a les rapports avec les particuliers et puis le conseil en investissement. Comment vous avez abordé justement ces thématiques, puisqu'on est sur différents métiers à chaque fois?
Alors justement, dans le rapport, on pouvait pas être complètement exhaustif, on a dû se limiter à certaines activités et à certains métiers au sein du secteur financier dans son ensemble. On a décidé de se concentrer sur le secteur bancaire et de prendre à chaque fois trois pratiques. Ces pratiques, nous les avons donc décomposées. Alors, c'était pas toujours évident parce qu'en fonction des pays, en fonction même des institutions bancaires, il y a des choses qui ne sont absolument pas comparables. Mais bon, il faut toujours être un petit peu schématique. On a donc essayé de tout sectoriser, de tout séquencer, de voir les procédures qui étaient en œuvre lorsqu'on faisait du trading ou lorsqu'on faisait de l'allocation de crédit ou du conseil en investissement ou tout simplement du conseil en services financiers, et de voir à quelles étapes, j'allais dire, des procédures éthiques s'avéraient nécessaires ou une amélioration de ces procédures éthiques s'avéraient nécessaires.
Alors vous dites aussi que l'éthique, ce n'est pas forcément la morale, c'est parce que souvent hein, on mélange un peu les deux, ce n'est pas forcément effectivement la morale.
Tout à fait, c'est l'aspect, j'allais dire, un petit peu novateur ou original ou un peu provocateur aussi de notre rapport, qui vise à vraiment dissocier radicalement la morale de l'éthique. La morale, c'est un ensemble de prescriptions et de proscriptions, idéologiques, qui sont liées toujours à une civilisation. L'éthique est quelque chose de beaucoup plus rationnel, qui va interroger les fondements de ces valeurs et de ces normes. C'est pour ça que notre démarche est une démarche, entre guillemets, ce qu'on appelle d'éthique normative appliquée. C'est pour ça que c'est une démarche qui est assez difficile, parce que c'est à la fois de la philosophie et de la finance. Il fallait allier toutes les compétences, et c'est pour ça que le rapport a pris 3 ans à être rédigé, et on m'a déjà demandé une suite, donc ça va continuer.
Alors on pourrait dire aujourd'hui, si on interrogeait, enfin si je le faisais à votre place, j'interrogeais les professionnels, ils diraient finalement on a de plus en plus de réglementations, de contraintes, après c'est justement ces crises qu'on a évoquées ensemble, et ils ont l'impression qu'il ne faut pas en remettre une couche. Qu'est-ce qu'apporte justement votre rapport? Qu'est-ce qui pourrait leur être bénéfique finalement dans cette éthique?
Ah, beaucoup de choses. Alors déjà, la première, c'est que l'éthique n'est pas opposée à la réglementation. Au contraire, dans notre rapport, nous rappelons aux Nations Unies le rôle qui devrait être le leur, à savoir d'organiser une sorte de régulation internationale unique, avec une réglementation un petit peu plus harmonisée. Ensuite, oui, beaucoup de professionnels ont le sentiment d'une surinflation réglementaire, et voilà. Mais l'éthique, ça n'est pas, j'allais dire, surajouter à cette réglementation. L'éthique, c'est inciter à développer des pratiques et des procédures en interne, dans chaque institution, pour garantir le traitement des dossiers de façon respectueuse et responsable. Ça n'a pas d'impact supérieur. Pour eux, pour les acteurs financiers, l'avantage est important. Tous, parce qu'évidemment, nous avons soumis nos pré-recommandations à un grand nombre de praticiens, tous nous ont dit que ça nous permettrait de réduire les risques opérationnels, voire dans le cas de certaines institutions, notamment les propositions de Jacques Delarosière sur la banque universelle, permettraient de réduire considérablement le risque systémique des très gros, des too big to fail.
Donc quelque part derrière, c'est sans doute le plus important, c'est ça, c'est que ça peut aider les institutions qui finalement, parce que le too big to fail, c'est vraiment le sujet du moment toujours, on va dire même 5 ans après, ou 6 ans après le début de la crise, il y a encore plus de too big, on pourrait dire, et donc peut-être potentiellement plus de risques. Donc comprendre encore mieux comment l'éthique peut aider à éviter de nouveaux risques systémiques, c'est la clé.
Oui, l'éthique a pour vocation première déjà de ne pas tromper le consommateur et l'ensemble des acteurs du service financier, de permettre de restaurer de la confiance. Et restaurer la confiance, ça va avec, j'allais dire, une prise de responsabilité plus importante. Le too big to fail, c'est une des problématiques majeures, selon moi, du secteur financier dans son ensemble. Mais souvent, on a tendance à réduire le risque systémique à ses seules institutions. Or, on sait très bien qu'il existe, malheureusement, je dois dire, de très nombreuses institutions, même des asset managers, dont enfin, qui représente un risque systémique important et réel pour l'ensemble du système financier.
On va dire que ce rapport sera remis effectivement aux Nations Unies. Vous en attendez quoi, comme toujours? C'est ce type de rapport, il y a un gros travail qui a été fait. On a échangé ensemble sur les principes qui peuvent être effectivement évoqués. Est-ce que les Nations Unies donc, doivent s'en emparer complètement et essayer d'harmoniser les règles internationales?
Alors, pour une part, évidemment, le rapport a été pré-remis au département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. La remise officielle aura lieu plus tard. Évidemment, on sait très bien que pour adopter un certain nombre de recommandations, il faut une majorité des pays membres et que ça prend évidemment beaucoup de temps. Après, les responsables des Nations Unies en interne peuvent faire beaucoup, notamment clarifier la terminologie utilisé dans le secteur financier, je pense que ça assainirait déjà beaucoup les pratiques. Proposer des recommandations concrètes, positives, dans un petit livret comme ils savent le faire, je pense que ça guiderait beaucoup de professionnels dans leurs pratiques et ça pourrait les améliorer. Et on a comme ça tout un ensemble de recommandations très concrètes, très pratiques. Et on a eu à cœur de trouver des solutions dont le coût de mise en place ne serait pas délirant. Donc, il pourrait à chaque fois être assumé par les différents acteurs financiers.
Ouais, et donc, effectivement, pour les financiers, c'est important, des questions de coût. Merci, Arthur Cohen, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.